Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus. À la une ce matin, évidemment, Joe Biden, président depuis seulement 12 petites heures. Le démocrate a signé cette nuit, comme promis, une série de décrets marquant une rupture immédiate avec Donald Trump. Les États-Unis vont revenir dans l'accord de Paris sur le climat. Ils reviennent à l'OMS également. Welcome back, lui a adressé Emmanuel Macron. Et Joe Biden accordera par ailleurs son premier entretien par téléphone à son voisin, le Premier ministre canadien Justin Trudeau. S'emparera-t-il rapidement du dossier des sanctions commerciales avec l'Europe? La France, en tout cas, invite Joe Biden à le faire rapidement. Écoutez ce qu'en pense Claire Joachim. Elle est maîtresse de conférences en droit public à l'Université de Poitiers.
Ça peut être un geste politique hein, de la part des Américains pour montrer patte blanche vis-à-vis de l'Europe parce que les relations avec les Européens sous l'ère Trump ont été très compliquées. Ça peut être aussi une sorte de monnaie d'échange, une manière de dire qu'on fait un pas vers vous, mais les Américains ne vont pas pour autant aller moins dans le protectionnisme. Je ne suis pas certaine que ce soit un revirement total. Par exemple, sur la taxation GAFA, alors que l'Europe les appelle, là, on les attend. Et là, moi, je ne suis pas certaine qu'ils vont aller à fond dans notre sens, dans la mesure où déjà, sous l'ère d'Obama, les négociations avaient été gelées. Et puis, la plupart des entreprises du numérique sont des entreprises américaines.
Alors, pour l'anecdote, Joe Biden a récupéré hier le compte Twitter officiel de la présidence américaine, @POTUS, purgé cependant des 33 millions d'abonnés du président Donald Trump. Ce matin, le compte fédère un peu moins de 5 millions de followers. Les tweets de Donald Trump, ex-président, eux, sont accessibles sur un compte dédié @POTUS45, comme 45e président des États-Unis. En France, c'est désormais officiel, les remontées mécaniques n'ouvriront pas le 1er février. Selon le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, le secteur doit se préparer à une saison blanche. Jean Castex doit lui recevoir dans les prochains jours les acteurs de la montagne. En attendant, les saisonniers qui forment le gros des effectifs en station ne sont toujours pas fixés sur leur sort. Reportage à La Rosière, en Savoie, Céline Cajoulis.
Pour tous les jeunes sans expérience, le travail saisonnier, c'est normalement l'occasion de débuter sa vie professionnelle. Jérémy Silva, de l'Office du Tourisme.
Déjà, il y en a beaucoup qui n'ont pas été embauchés, puisqu'on sentait venir quand même une saison qui allait être compliquée. Donc beaucoup de commerçants ont dit, on verra, on embauchera sur le tard. Et pour ceux qui ont déjà embauché leurs saisonniers, il y en a beaucoup qui vont devoir passer au chômage partiel. L'impact est fort, c'est-à-dire moins d'embauches de saisonniers qu'habituellement. Et ceux qui ont fait les embauches, ça va être de l'activité partielle ou du chômage partiel.
Des saisonniers généralement logés par leur employeur, mais cette année, certains vont se retrouver sans contrat et donc sans maison. Étienne, 32 ans, travaille dans l'hôtellerie.
Je suis en attente, j'avance au jour le jour. J'ai la chance d'avoir un logement à l'extérieur. On se pose la question pour les personnes qui n'ont pas de logement ailleurs, comment rebondir et comment trouver une solution. Au vu du contexte sanitaire, rentrer chez les parents, pour certains, ça peut être même un risque.
Et aujourd'hui, la crainte, c'est de voir certains de ces saisonniers tomber dans la précarité la plus extrême, faute de travail.
Cette question lancinante à présent, quel sera le taux de défaut sur les prêts garantis par l'État? On commence à en avoir une idée précise. Bonjour Eric Mauban.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
BPI France a avancé hier une première estimation, ce sera entre 4 et 7% de défaut sur les montants accordés, 130 milliards je le rappelle. Le problème, Eric, c'est la concentration du risque sur les petites entreprises.
Oui, environ 9 entreprises sur 10 qui ont souscrit un PGE sont de très petites entreprises. La plupart d'entre elles réalisent moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Selon Guillaume Pépi, qui préside désormais Initiative France, un réseau de soutien aux créateurs, 70% des PGE accordés aux très petites entreprises pourraient faire défaut. En novembre dernier, près de 130 milliards d'euros, vous l'avez dit, avaient été accordés à 660 000 entreprises. Le problème est que ces PGE ne créent pas de valeur. Ils ont été accordés pour compenser des manques à gagner. Il faudra pourtant bien rembourser cet argent, et ce, au détriment de l'investissement ou de l'emploi. Alors, trois options sont possibles. D'abord, l'annulation de tout ou partie du PGE, un geste politique qui risque de fragiliser les banques et de les rendre plus prudentes dans l'octroi de leurs crédits. Autre option, la plus acceptable, le réaménagement des prêts. Les premières échéances de remboursement sont décalées dans le temps, c'est la solution privilégiée à Bercy, mais cela ne fait que repousser le problème du remboursement. Enfin, reste une dernière option, la conversion des PGE en prise de participation ou en prêt participatif. Il faudra alors définir les modalités de la conversion. Dans une France déjà surendettée, le risque est grand de voir ces PGE enfermer l'économie française dans un régime de stagnation économique à long terme.
Merci Eric. Pendant ce temps, les Français, eux, thésaurisent. L'encours du livret A atteint des sommets, 326 milliards et demi d'euros. C'est près de 10% d'augmentation sur un an. Ça représente aussi près de 13 points de PIB. Beaucoup de livrets ont atteint leur plafond. L'actualité des entreprises, situation compliquée en Australie pour Naval Group. Il y a 4 ans, le leader français du naval militaire avait signé le contrat du siècle, 50 milliards de dollars pour 12 sous-marins de classe Barracuda. Mais les Australiens envisageraient de casser le contrat. Les motifs de discorde sont nombreux, des retards, des surcoûts aussi. La note initiale avoisinerait désormais 90 milliards. Pas étonnant pour un chantier de cette ampleur, nous explique Jean-Pierre Molnis. Il est le directeur adjoint de l'IRIS, spécialiste des questions militaires.
Du côté de Naval Group, c'est sûr qu'on veut être sûr que tout est en place, sur place, pour pouvoir construire les sous-marins, quand on passe au contrat de fabrication proprement dit. Parce que si tout n'est pas en place, que ce soit au niveau de la chaîne industrielle, des compétences industrielles, ou si tout n'a pas été bien défini au niveau du design du bateau, défini avec les Australiens, là, pour le coup, on va vers de vraies difficultés, de vrais échecs. Ce serait en France ou ce serait au Royaume-Uni, aux États-Unis, ce serait la même chose. Il faut mieux prendre un peu de temps au début que d'avoir des problèmes ensuite.
Voilà, Jean-Pierre Molny, le directeur adjoint de l'IRIS. Les marchés pour finir, le CAC 40 en hausse hier soir, plus 0,53%, 5 628 points en tête de l'indice. Thalès qui gagne presque 4% après avoir remporté un contrat pour livrer à la Commission européenne 6 satellites pour la prochaine génération du système Galileo, le GPS européen. Airbus a lui aussi décroché un lot de 6 satellites. À suivre ce jeudi, la prise de parole de Christine Lagarde cet après-midi, la présidente de la BCE, a priori pas de nouvelles mesures à attendre du côté de la Banque centrale. En revanche, des questions tout de même sur l'impact de la reprise épidémique sur l'économie et sur le niveau de l'euro, très fort en ce moment, pourrait atteindre 1,25$ d'ici la fin de l'année. À Wall Street, les trois grands indices à des niveaux records une fois de plus. Le Dow Jones, plus 0,83%, 31 188 points et le Nasdaq, plus 1,97%, 13 400.